Par contre, ce que Andreas a dit au sujet de ce paralytique m'a touché. Et c'est vrai qu'Andreas nous a engagés à nous ressentir soit dans la peau du paralytique lui-même, soit dans la peau de Pierre lui-même. Donc c'est ces deux points de vue que nous pourrions développer ce matin en écoutant cette prédication. Acte 3, 1 à 11. Voilà. Mettre en œuvre notre vocation. C'est le thème de ma prédication. Mettre en œuvre la vocation qui nous a été confiée, je la rappellerai. Alors nous rappelons que nous sommes dans ce cycle-là. Acte de Dieu, acte des hommes. Une mission qui grandit. Et Nicolas nous avait interpellés à oser prendre positivement la vague pour pouvoir nous laisser entraîner par la vague et aller de l'avant. Le mandat de notre vie chrétienne, vous le connaissez bien, c'est cette parole d'acte 1. Vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est notre mandat. Et nous sommes tous concernés et interpellés par cet appel-là. Et puis, pour réaliser ce mandat, en fait, pour faire court, nous avons deux promesses. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Ça, c'est une extraordinaire promesse. Et la deuxième, qui est corollaire de la première, c'est Jésus qui nous dit, eh bien, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, enfin jusqu'à la fin des siècles, jusqu'à l'accomplissement des siècles. Alors, là, il y a une dynamique extraordinaire qui nous concerne tous. Et puis peut-être vous allez vous poser la question, mais comment faire? Comment faire pour réaliser cette vocation qui nous concerne tous avec ces promesses qui nous accompagnent? Eh bien, le texte qui nous est offert ce matin, c'est une réponse à cette question. Et c'est cette réponse que j'aimerais visiter avec vous. Nous lisons le texte. Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, c'est-à-dire c'était l'heure de l'après-midi. Or, on portait un homme infirme de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, avec Jean, le fixa et lui dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Par le nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, celui qui vient de Nazareth, lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Les gens furent remplis d'émoi et de stupéfaction au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple en émoi accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alors, pour suivre une petite présentation du temple, pour bien situer le contexte de notre histoire, alors c'est une représentation que j'ai trouvée dans un livre académique, mais vous savez, c'est très difficile de se représenter le temple de Jérusalem, et je crois qu'il y a autant de représentations que d'auteurs qui ont essayé de le faire. Mais enfin, nous savons que ce temple est sur l'emplacement du rocher du mont Sion où Abraham aurait offert Isaac en sacrifice, le sacrifice qui était substitué par un bélier. Et puis là a été construit le temple. La représentation que vous avez là, c'est celle du deuxième temple complété, modifié ou embelli par Hérode. Et c'est le temple du temps de Jésus. Et comment savons-nous? Parce que vous avez ici la forteresse romaine de l'Antonia. Le temple est là. Vous avez les portiques, ce qu'on appelle les portiques, c'est simplement des colonnades qui permettaient de mettre un toit et qui nous protégeaient du soleil quand il faisait très chaud ou de la pluie lorsqu'il pleuvait. Et sous les portiques, les gens aimaient à se rencontrer. Et vous avez alors, en direction du sud, vous avez le portique de Salomon, qui est ici. Non, ça c'est le portique royal, pardon. Le portique royal, le portique de Salomon qui est là. Ici, c'est la place, la cour des ouverte à toute la population, ce qu'on appelle la cour des gentils. Ici, il y aurait la cour réservée uniquement aux femmes. Et puis là, ce serait la belle porte qui donne dans la partie intérieure de, enfin, tout d'abord le parvis et la partie intérieure du temple. Je vais développer ma méditation en cinq étapes. Cinq étapes qui illustrent en fait la réponse à notre vocation. La première étape, c'est la montée au temple. Là, je prêche à des convaincus, puisque nous sommes rassemblés dans cette chapelle ce matin. Mais j'aimerais souligner le privilège qu'est le nôtre de vivre une vie communautaire. Vous savez que nous sommes dans une époque extrêmement individualiste, marquée par un très fort individualisme. Et puis les supports, la technique, radio, télévision, etc., nous permettent encore d'entretenir cet individualisme pour nous déconnecter finalement de la communauté. Il n'y a pas si longtemps, je rencontrais des amis que je n'avais pas revus de vieille date, mais avec qui nous avions fait tout un cheminement dans le cadre de notre église. Et puis voilà, ils m'apprennent que finalement, désormais, ils n'écoutent le culte qu'à la radio. Et je trouve ça dommage parce que en fait, si c'est vrai que chacun, nous sommes une personne particulière, une personne singulière, unique et irremplaçable, à vrai dire, notre identité ne nous conduit pas à nous isoler. Parce que, en fait, c'est dans la communauté que nous allons pouvoir fertiliser les personnalités que nous sommes. Remarquez que les disciples auraient eu 1000 raisons de ne pas monter au temple. Puisque, voilà, ce sont en fait les grands prêtres, ce sont la foule qui a voulu crucifier Jésus. Et puis, si nous lisons les Hébreux, bon, les Hébreux ont été écrits bien plus tard qu'a lieu cet événement, mais si nous lisons les Hébreux, eh bien, nous voyons que le sacrifice, la liturgie du temple a été abrogée, elle a été supprimée. Et pourtant, Pierre et Jean montent au temple. Et pourquoi? Eh bien, c'est l'occasion pour eux de rencontrer des hommes et des femmes qui cherchent Dieu. C'est un lieu de communauté et c'est le lien qui nous construit. Nous croyons parfois que le lien nous paralyse ou que c'est dégradant ou humiliant de dépendre les uns des autres. Eh bien non, je ne crois pas. Je crois au contraire que c'est le lien. C'est la vie communautaire avec ses défis, avec ses richesses ou au contraire ses âpretés qui nous permettent de construire notre personnalité devant Dieu. Et un signe de maturité dans notre cheminement spirituel, c'est d'être capable d'agir positivement même dans un monde imparfait. Et c'est là, dans cette montée au temple, que Dieu va rencontrer et faire vivre aux apôtres un événement tout à fait extraordinaire. C'est d'ailleurs le premier grand miracle qui est rapporté dans les Actes des apôtres. Donc c'est la première leçon de cette histoire, rejoindre notre vocation en rejoignant nos semblables, en rejoignant nos voisins de quartier, en rejoignant la population au stand du marché, en dialoguant avec ceux qui nous sont proches et en rejoignant tous ceux que Dieu met sur notre route. Et là, en traversant cette belle porte, Je rappelle qu'une porte dans l'Antiquité, ce n'est pas simplement comme pour nous une paroi en bois ou une paroi en métal. Une porte, c'était vraiment un lieu, ou un espace dans lequel on pouvait se rencontrer et on pouvait échanger et partager. Eh bien, lorsque les apôtres se mêlent à la foule, il y a des choses qui se vivent parce qu'ils sont investis de l'appel que Dieu leur a adressé. Et cet appel, il est opérant et il finira par se manifester d'une manière concrète. Il passe par cette porte et il rencontre ce boiteux. Alors on nous dit que c'est un homme totalement inconnu, sans nom, sans identité, une victime impuissante. Vous avez noté qu'il est dit qu'il est simplement « on l'apportait ». Tous les matins, on l'apportait. C'est assez tragique de qualifier quelqu'un d'un « on », l'anonyme, un numéro, quelqu'un de non identifiable, qui n'a pas d'identité particulière. Cet homme subit un transport quotidien et il est placé là, à la belle porte, parce qu'en fait, il n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Les païens n'avaient pas le droit d'y rentrer, les gentils, les femmes non plus. Et les impotents, les enfants, etc., tout cela n'avait pas le droit d'entrer dans le temple, de telle sorte que son seul endroit pour être le plus proche, c'était d'être déposé à la belle porte. Et là, eh bien, il est là, dans son rôle de mendiant, et vous savez très bien ce que cela signifie de croiser des mendiants dans la rue. Comment est-ce que nous réagissons? Nous avons mille manières de nous positionner vis-à-vis d'eux. Bien souvent, nous tournons la tête ou est-ce que parfois nous prenons un peu de temps pour parler avec eux? Est-ce que nous cherchons à entrer en contact, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils essayent de manifester et d'être ici? Ou alors au contraire, dans la rapidité de nos activités quotidiennes, nous passons souvent outre. Eh bien, si nous lisons le texte, si nous reprenons le texte qui a été lu précédemment, nous allons découvrir un jeu de regard qui a permis aux apôtres d'entrer en relation avec ce mendiant. Et là, je m'attache plus longuement au verset 3 à 5. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, l'infirme les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, avec Jean, le fixa et dit « Regarde-nous ». Lui les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et là, chers amis, vous trouvez dans ces trois versets tout un jeu de regard, un jeu d'expression, de verbe qui qualifie le regard. Et ce jeu de regard nous invite à entrer dans la relation et dans la profondeur. Premier regard, voir. Ça, c'est l'infirme. L'infirme qui voit Pierre et Jean qui passent est le verbe que l'auteur de ce texte, l'évangéliste Luc, utilise, c'est « orao » tout simplement. Et « orao », bien, c'est le regard normal, banal, que nous posons sur la vie lorsque nous nous déplaçons pour nos activités quotidiennes. Nous n'avons pas vraiment le temps d'observer toutes les choses. Donc, le regard, le premier regard qui nous vient à l'esprit, c'est un regard plutôt mécanique, un regard vide, un regard évasif, un regard qui ne crée pas de lien. Et c'est vrai, ce mendiant en a vu des milliers qui ont passé devant lui. Finalement, il ne va pas scruter les uns et les autres. Il fait le geste traditionnel de tendre la main et de regarder d'une manière tout à fait évasive ceux qui passent devant lui. Parfois aussi, c'est le regard que nous subissions. Et vous savez, parfois, ce regard qui nous fait dire « Oui, écoute, franchement, je te vois, mais je ne te vois pas vraiment en profondeur. Tu ne m'intéresses pas particulièrement. Continue ton chemin. » Et alors, les disciples ont vu ce regard. Et ils ont imaginé, ils ont compris qu'ils étaient face à une personne dont l'histoire, dont l'identité, dont devait cacher tout un itinéraire de souffrance. Ce qui fait que c'est Pierre qui, lui, va de l'avant et fixe son regard sur l'infirme. Pierre ainsi que Jean le fixa. Et là, nous avons un autre verbe, athénizo, qui est déjà beaucoup plus précis. Pierre s'adresse au mendiant, il adresse au mendiant un regard attentif. Il voit devant lui un être humain, non pas simplement un anonyme. Pour Pierre, ce mendiant est un homme, une personne. Et avec toute personne, il vaut la peine de fixer un contact, une relation. Pierre développe à son égard un regard attentif, empathique, un regard qui s'intéresse à l'autre. Il prend du temps de regarder l'autre. Et Pierre, en le regardant avec cette attention-là, il lui adresse une interpellation et il lui dit « Regarde-nous ». C'est l'interpellation de Pierre. Et là, vous avez un troisième verbe, « blepo ». Regarde-nous, ça veut dire « porte sur nous ton regard ». Dirige ton regard vers nous. Je vous l'ai dit, hein, le premier regard de l'impotent, c'est un regard tout à fait vague, un regard anonyme où on ne cherche pas une rencontre avec l'un avec l'autre. Et là, eh bien, c'est ce que Pierre essaye de faire avec cet homme. Nous t'avons regardé d'une manière empathique. Ta souffrance nous émeut. Nous aimerions prendre à cœur, nous aimerions te manifester de l'empathie. Et alors maintenant, regarde-nous. Ou en d'autres termes, dis-nous qui tu es. Où es-tu? Qu'as-tu vécu? Qu'est-ce que tu portes en toi? Quelles sont les traces de vie qui ont marqué ton existence? Et là, le texte nous dit qu'il a changé de regard. Il a changé de regard et désormais Luc utilise un quatrième verbe, epeko, qui signifie observer, prêter attention, diriger son attention sur, être fixé sur quelqu'un, un regard qui engage la personne. Désormais, cet homme est présent. Désormais, la relation a été construite entre cet homme et les apôtres. Désormais, il a reçu entre les partenaires de cet épisode, eh bien, le regard qu'ils se donnent les uns des autres, c'est un regard d'interpellation. Et vous le savez bien, le regard construit la relation. Et lorsque nous sommes face à un handicapé, face à une personne qui a une expérience douloureuse, face à un malade quelconque, nous savons bien que ces gens-là, ils expriment leur maladie et leurs besoins au travers de ce qu'ils sont, mais en fait, ils sont bien plus, ils sont beaucoup plus profonds, ils sont beaucoup plus, leur vie est beaucoup plus vaste que le simple énoncé de leurs besoins. D'où l'importance de les rencontrer dans leur vécu, d'où l'importance de développer un regard qui s'intéresse à eux. Puis ensuite, une fois qu'on a mieux habité leur propre personne, on pourra mieux s'intéresser et se préoccuper de leurs maux. D'où l'expression que j'aime bien sous la plume du docteur Paul Tournier, qui, lorsqu'il parle de la médecine, parle d'une médecine de la personne. Avant d'être une médecine d'un acte médical, nous sommes invités à entrer dans une démarche d'une médecine de la personne. Et si des blessés de la vie, si des malades peuvent se redresser, eh bien c'est parce qu'ils ont rencontré un regard qui leur fait confiance. Ils ont rencontré un regard empathique. Et c'est au moment de cet échange de regards que commence le miracle. C'est l'échange de regards, c'est la rentrée dans la communion, dans la compréhension empathique des uns avec les autres que débute le miracle dont ce récit nous présente les éléments. C'est en fait ce regard qui va être le début de la thérapie, d'un chemin de guérison qui va visiter cet homme au plus profond de lui-même. Pour guérir, il faut rencontrer ce geste de bienveillance qui restitue à chacun non pas simplement un acte thérapeutique, mais qui restitue à chacun sa dignité pour le placer parmi les vivants. Un regard qui dit « tu existes, tu as de la valeur, je t'ai compris ». Un regard qui fait exister. Et vivre ce regard, vivre cette empathie, vivre ce temps d'écoute, eh bien, c'est aussi rentrer dans un temps de pardon, un temps de réconciliation, un temps qui permet des confidences, peut-être des confessions, un temps qui permet toutes ces rencontres en profondeur. C'est un temps, c'est un processus qui est toujours un processus de guérison. Alors, c'est la deuxième leçon que je retiens de ce récit de miracle. C'est que là, entre ces hommes qui ne se connaissaient pas, mais qui portaient en eux toute une histoire, toute une existence qui avait besoin d'être visitée, il s'est joué ce jeu de regard qui a permis la rencontre et qui a permis d'entrer en direction de la guérison. Comment est-ce que là, je peux m'interpeller moi-même? Et en effet, me dire, mais comment est-ce que je regarde autrui? Et là, j'ai deux exemples, mais je n'aimerais pas faire deux. Je me rends compte que deux exemples de regard. Voilà, un regard que je trouve un regard empathique, un regard qui encourage, un regard qui nous invite à la relation, qui nous invite à la rencontre, qui nous invite à plus de présence les uns avec les autres. Puis ensuite, là, mais j'ai mis tout de suite et j'aimerais être discret, je trouve que là, il y a un regard qui a envie de nous dire, cause toujours, tu ne m'intéresses pas. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le processus de guérison. Maintenant que le lien a été construit, maintenant que l'infirme n'est pas simplement un numéro, un anonyme qui a été déposé à pied dans cette porte, maintenant nous pouvons entrer dans le processus de guérison. L'infirme n'est pas simplement, comme je viens de le dire, un anonyme. C'est un homme qui a pu dire quelque chose de sa vie, qui a pu dire quelque chose de ses besoins, de son histoire. Le récit est très raccourci, bien sûr, mais la suite du récit nous montrera combien cet homme s'est attaché à Pierre et à Jean, et qu'il les a suivis, qu'il est devenu disciple, donc il a eu le temps d'entrer dans une plus grande proximité avec eux. Eh bien, c'est à ce moment-là que le miracle, j'allais dire, peut s'effectuer, mais le miracle a déjà eu lieu dans la rencontre de ces regards. Dans la logique de l'infirme, il s'agissait de recevoir de l'argent. Mais voilà, son attention a été attirée non plus simplement sur son attente de recevoir de l'argent, son attention a été attirée sur la personne même des disciples de Pierre et de Jean. Et là, j'imagine que l'infirme a dû se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils vont m'offrir? Est-ce qu'ils vont m'offrir plus que d'autres puisqu'ils m'ont ainsi attiré, ils ont ainsi attiré mon attention? Que va-t-il m'arriver? Et alors, c'est à ce moment-là que Pierre prend la parole et l'homme entend des paroles inouïes. L'homme entend des paroles qu'il n'a jamais entendues et qui auront un impact extraordinaire sur lui. Pierre lui dit, mais vois-tu, de l'or, de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. Et le prenant par la main droite, il le fit se lever. Hélas, cet événement est un événement qui me touche au plus profond de moi-même parce qu'il y a là vraiment la manifestation de la réalisation du salut pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Je n'ai pas d'argent, je n'ai rien à t'offrir, disait l'apôtre. J'ai rien à t'offrir. Et ça correspond à ce que le texte nous dit, puisque les apôtres avaient tout mis en commun et que finalement, ils ne se prévalaient d'aucun avoir personnel. Donc, finalement, je ne suis que le témoin de la communauté et je ne suis que le témoin de la vocation que Dieu m'a donnée. Je suis le disciple d'un maître qui, lui, est venu manifester la proximité du royaume, la proximité de Dieu. Tu es venu dans ce temple pour adorer le Seigneur, Dieu. Eh bien, le maître que je suis a manifesté, il a témoigné, il a révélé qui était réellement ce Dieu que tu es venu adorer. Et ce maître, il est toujours vivant. Il n'est plus visible sur la terre, puisqu'il est remonté au ciel, mais il est vivant, il est présent, il est agissant par son esprit, au nom du Seigneur Jésus. Lève-toi et marche. Et j'aime bien cette icône, en fait c'est un dessin qui a été distribué à tous les participants d'un colloque sur le thème de la guérison. Et vous voyez là une icône tout à fait originale dans le sens que les personnages qui sont sur la terre, eh bien c'est les infirmes et puis c'est les apôtres. En l'occurrence ici, c'est l'apôtre Pierre et là l'apôtre Paul. Mais ces personnages sont comme surmontés par Jésus et par le Saint-Esprit. Jésus n'est plus là parce qu'il n'est plus sur la terre. Il est au ciel. Le Saint-Esprit, lui, est descendu dans toute sa gloire et la manifestation de sa promesse. Et désormais, depuis qu'il est remonté au ciel, ce sera à ses apôtres d'être les révélateurs, d'être ceux qui vont manifester la présence du ressuscité. Donc je trouve très, très, très éclairant cette manière de présenter notre vocation, où nous sommes en quelque sorte les porte-paroles, où nous sommes les mains du Christ. Et vous savez combien le Christ a manifesté de miracles en venant sur la terre. Pierre a donc actualisé pour cet handicapé le pouvoir que Jésus a manifesté lorsqu'il était sur la terre. En Jésus, le royaume de Dieu s'est approché des hommes. Et la proclamation du message du salut s'est toujours faite soit par un discours, par des discours, par des énoncés, soit par des miracles. La manifestation des signes et des miracles fait partie intégrante de la proclamation du message du salut. C'est ce qu'on appelle une proclamation en parole et en acte. Et Luc nous dit au début du ministère de Jésus à Nazareth, lorsque Jésus présente le début de son ministère, eh bien le texte nous dit que la prophétie d'Ésaïe 61 se réalise en Jésus-Christ. Les captifs sont délivrés, les aveugles sont guéris, les opprimés sont libérés. Et c'est ça, chers amis, l'extraordinaire bonne nouvelle que nous sommes invités à manifester. Nous savons bien que le mal est entré dans le monde et nous savons que le mal a provoqué blessures, fractures et souffrances, et maladies et tout ce qui altère la vie humaine. Mais nous savons que telle n'est pas la volonté de Dieu et que dans le royaume éternel, il n'y aura plus de douleur. Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Or, Jésus est précisément venu inaugurer le temps du salut. Jésus est venu pour réaliser le salut promis par Dieu et il en a manifesté son actualisation. Aussi, l'un des accents principaux du ministère de Jésus, c'est la guérison des malades, des impotents, parce que c'est là le signe que le royaume de Dieu s'est fait proche. Je suis le Seigneur qui te guérit. Voilà ce que Dieu dit dans Exode 15 au verset 26. Eh bien, l'œuvre du Christ consiste précisément à attester de cette vérité. Ce sont dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'essentiel de son ministère consistera à triompher, à manifester l'autorité du Christ, l'autorité du Père, l'autorité du royaume de Dieu contre toutes les maladies et contre toutes les impiétés qui font obstacle à la manifestation de son royaume. Donc les miracles appartiennent à la proclamation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur, je te le dis, lève-toi et marche. Et il a pris cet homme et il l'a fait se lever. Le nom du Seigneur, bien sûr, ce n'est pas une formule magique, c'est l'expression d'une communion intense avec Jésus. C'est l'expression que Jésus est à l'œuvre maintenant dans notre vocation de disciple. C'est l'expression que Jésus nous a partagé cette vocation d'être des hommes et des femmes qui sont porteuses de l'espérance, du salut et qui manifestent le royaume de Dieu sur cette terre. Et c'est la troisième leçon que je tire de cet épisode. Je suis entraîné dans le ministère de Jésus en parole et en acte pour manifester le royaume de Dieu. Et j'arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, eh bien, je la tire d'une lettre que l'apôtre Pierre a écrite lui-même. Donc l'apôtre Pierre, qui était l'un des acteurs de ce miracle et de bien d'autres, rend compte de son ministère dans son épître, dans sa lettre au chapitre 1 au verset 3, d'une manière qui me paraît tellement riche. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande compassion nous a fait naître de nouveau par la résurrection de Jésus d'entre les morts pour une espérance vivante. » Bénir Dieu, ça c'est notre vocation. Et vous l'avez entendu dans le texte, l'infirme guéri est rentré dans le temple, puis il a loué le Seigneur. Il y a de quoi célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour sa bonté et pour tout ce qu'il a manifesté de merveilleux et de glorieux dans nos vies. Béni soit le Seigneur qui nous a manifesté sa compassion. Il nous a fait naître une nouvelle naissance, une régénération, une accession à une vie nouvelle par la résurrection de Jésus. Si nous pouvons accéder à cette vie nouvelle, c'est parce que le Seigneur nous a précédés et que sa résurrection nous a ouvert une réalité nouvelle, et ceci se traduit pour nous dans une espérance nouvelle. Et cette expérience nouvelle, vivante, j'allais dire vivifiante, porteuse de vie, eh bien c'est cela notre vocation. Et c'était le thème de ma prédication. Quelle est notre vocation? Alors en conclusion, je rappellerai ces trois étapes. Une vocation qui se met en œuvre dans la rencontre de l'autre. Là où il y a des hommes et des femmes, là se trouve être notre vocation. Une vocation qui se met en œuvre dans une rencontre qui n'est pas simplement une expérience fugitive ou une expérience à la surface des choses, mais qui se donne à vivre dans la profondeur. Et cela, alors, nous sommes tous concernés, qui que nous soyons, dans nos familles, est-ce que nous regardons encore les uns les autres pour découvrir chez l'autre la profondeur de son existence? Est-ce que nous regardons toujours nos enfants pour découvrir chez eux la profondeur de ce qu'ils sont? Ou croyons-nous avoir tout savoir sur notre conjoint ou nos proches ou ceux qui nous entourent? Alors qu'au contraire, l'être humain reste un mystère quasiment infini. C'est la deuxième étape de cette expérience de disciple. Et la troisième étape, c'est tout simplement vivre ce que Jésus nous invite de vivre autour de nous et de manifester autour de nous cette puissance de guérison et de résurrection que Jésus a été et qu'il est pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce magnifique récit. Merci pour cet événement. Et comme j'aime à le dire, je souhaiterais que cet événement date d'aujourd'hui. car nous savons bien, les récits de la Bible n'ont pas été écrits pour le passé. Ce n'est pas des histoires qui se sont déroulées il y a X centaines ou milliers d'années, mais c'est pour aujourd'hui que tu nous as rapporté tous ces récits. Eh bien, aujourd'hui, Seigneur, tu nous invites à nous rencontrer. Aujourd'hui, tu nous invites à nous regarder, à prendre le temps de l'empathie, de l'écoute, à prendre le temps du cheminement et de l'accompagnement de l'autre pour pouvoir rejoindre ses besoins les plus profonds. Et c'est aujourd'hui que tu nous invites à nous dire les uns aux autres, « Je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Merci Seigneur pour ces paroles extraordinaires, ces paroles performantes qui peuvent transformer les vies que nous sommes et que nous te présentons. Merci pour ta gloire et la manifestation de ta présence. Amen.